Donc oui, je suis marié, père de 4 enfants, de 20 ans à 6 ans. Un large éventail. Donc consultant en communication, je fais beaucoup de communication d'entreprise, beaucoup d'écrits, de communication institutionnelle, de rédaction, de journaux d'entreprise, de rapports d'activité, de présentation des sociétés et aussi de la communication dans le domaine des associations, ONG, confessionnelles ou non. J'ai travaillé pendant longtemps avec le Secours catholique, j'étais consultant en communication pendant 5 ans auprès du directeur de la communication du Secours catholique. Et il y a d'autre part les engagements que vous avez soulignés au sein de Médias et Évangiles, qui est l'association que nous avons créée avec Patrice de Plinquette et Vincent Desmonts pour proposer aux médias une coopération et leur donner une information objective sur l'actualité chaude de l'Église. Voilà. Mais le sujet de la conférence n'est pas là. Ce que je voudrais dire, c'est que d'abord vous remerciez mon père de m'avoir proposé de venir, même si je suis davantage un spécialiste de la communication en général qu'un spécialiste ou un expert d'Internet en particulier. Alors, je dois dire que quand vous m'avez proposé de venir, je ne connaissais pas bien l'Institut Notre-Dame de Vie, où je le connaissais de réputation, excellente d'ailleurs. Et je le connaissais aussi parce qu'une jeune fille de Vaux-sur-Seine, une remarquable jeune fille, était entrée à l'Institut Notre-Dame de Vie. Nous connaissons cette famille et je me suis dit qu'une jeune fille de cette qualité rentrant à l'Institut Notre-Dame de Vie, soit l'Institut Notre-Dame de Vie était mauvais et allait devenir bon.
Pour le bienfait spirituel bon. De cette jeune fille, il faut la faire sortir, je crois, parce que là, sinon, ça va être trop.
Je ne sais pas si elle est là. Elle est là. Elle porte le même prénom que ma femme, ceci explique cela, Perrine. Voilà. Alors, mais je me suis demandé pourquoi, en fait, en préparant les choses, je me suis demandé pourquoi l'Institut Notre-Dame de Vie faisait une session sur le continent numérique, le village mondial numérique, digital. Et pour répondre à cette question, je me suis dit, il faut que j'en sache un petit peu plus sur l'Institut Notre-Dame de Vie. Alors, je suis allé sur votre site internet, bien sûr. Donc, je me suis précipité sur le « Qui sommes-nous ?» Je ne sais pas si ça s'appelle « Qui sommes-nous ?» Je ne sais plus, enfin, l'équivalent du « Qui sommes-nous ?» Et je tombe directement sur cette phrase « L'Institut Notre-Dame de Vie se réclame du prophète Élie. » Et voilà qui me donne la première information sur l'Institut Notre-Dame de Vie. Je réfléchis la chose en tant que communicant, donc image immédiate, dire désert, sécheresse, solitude, dépouillement et même fin dernière. Puisque Élie a une dimension eschatologique. Et voilà que je me dis, pourquoi ces gens qui se réclament du prophète Élie s'intéressent-ils à Internet ? Qui est foisonnement, abondance, multitude, instantanéité, apparence, immédiate, plein. Alors je suis allé un petit peu plus loin. Je me suis dit, il y a forcément une raison pour laquelle ils s'intéressent à Internet. Et la réponse est vite arrivée. Il y a écrit, l'Institut aime le désert, mais le quitte aussi. Et il le quitte pour être témoin dans le monde. Et voilà qui dit tout en peu de mots. Et là, j'ai compris que ce que vous êtes, peut-être que tout le monde n'est pas membre de l'Institut, mais j'imagine que les gens qui viennent là sont au moins sensibles à l'esprit de Notre-Dame de Vie, de la spiritualité du Mont Carmel. Et bien, j'ai compris que vous étiez des contemplatifs dans le monde, en quelque sorte, ce qui est très beau. Et du coup, j'ai découvert que votre fondateur, le père Marie-Eugène, avait dit ces mots très simples, le contact avec Dieu n'isole pas du monde. Donc voilà pourquoi vous vous intéressez à Internet, parce que le contact avec Dieu n'isole pas du monde, et le monde, comme vous avez décrit dans votre introduction, est numérique, est marqué par l'avènement d'une culture qui révolutionne beaucoup de choses, et ça va être abordé. Donc vous êtes dans le monde, et nous sommes en fait tous dans le monde, on est connecting people. Nokia. Je citerai de temps en temps comme ça des slogans et des marques pour bien montrer que la société consumériste dans laquelle on vit, c'est une idée, un slogan, une marque. Même si vous avez une idée qui n'a rien à voir avec la consommation, ça va vous ramener une marque. Parce que vous êtes soumis à un tel matraquage publicitaire que, là, Nokia. Et je pense à vous, je pense Nokia. Connecting people. C'est dire que c'est une culture, et c'est dire aussi, c'est pas juste pour faire de l'humour, c'est aussi pour dire que ça imprègne fortement. Tout ça représente une imprégnation culturelle et une imprégnation personnelle. Alors je ne veux pas anticiper sur la conférence sur les dimensions anthropologiques, mais peut-être juste introduire en général, en généralité, les choses sur ce World Wide Web. Comment on peut dire l'ère numérique aujourd'hui? Quelle image on peut trouver? On pourrait dire que cette ère numérique, ce continent numérique, c'est « just do it », Nike. Il suffit de le faire. Ou, comme dit la Matmut, tout est possible, tout est réalisable. On est exposé à 4000 messages publicitaires par jour. Je vous en ai déjà donné 3. Tout est possible, tout est réalisable avec Internet, avec le continent numérique. Tout est communication. Et une grande partie de cette communication est captée ou tournée aussi vers la consommation. Tout conso, tout comme. Mais pas seulement quand même, tout conso. On a vu que tout est possible avec Wikileaks. Il est possible de connaître les secrets d'État, ou on nous les présente comme des secrets d'État. Peut-être que grâce à la technologie web, on peut connaître la marque du dentifrice de Michel Alliot-Marie, je ne sais pas, mais on pourrait essayer, peut-être qu'on trouverait. C'est pas impossible, tout est possible. Le monde numérique, c'est Internet, vous l'avez dit, c'est l'audiovisuel, c'est le croisement de l'information, des télécommunications, et tout ça est connecté ensemble dans une démarche qui est totalement multimédia et multiforme, qui rompt avec la traditionnelle distinction des masses médias, la presse écrite, etc., etc., qu'on a connue pendant des années. Et là, tout est possible, et c'est un monde d'échange d'informations, c'est un monde de fichiers numériques, c'est incroyable ce qu'on peut faire avec tout ce monde numérique, du fichier, d'Internet, etc. Dans le train, je lisais un journal qui s'appelle Direct Matin, que vous connaissez. Je ne sais pas s'il n'y a qu'à Paris ou il est partout. Ces Parisiens, ils croient qu'il n'y a rien en province. C'est amusant parce que là, on est sur de la presse papier. Les clés du jour, en une page, il y a tout ce qu'il faut savoir. Et il y a les mots-clés du jour, je ne sais pas si vous voyez, comme les méta-tags sur les sites internet. Moubarak, Laetitia, primaire, Afrique, PSG. Ce sont des choses qui ne disent rien en termes d'information. Mais nous avons tellement été soumis, déjà dans les heures qui précèdent la lecture de ce journal, à une telle conjonction d'informations, d'images, de vidéos, de tout ce qu'on peut imaginer, avec les messages publicitaires qui vont avec, que... D'une certaine manière, on peut mettre simplement le mot, puisque dans notre esprit est déjà présente, consciemment ou non, l'évocation de ce que veut dire Laetitia. Laetitia, on dit Laetitia aujourd'hui, on sait qu'on parle de cette jeune fille qui a été assassinée. On aurait mis Laetitia, il y a 2 mois, on parlait de Johnny. Le même mot. Et pour montrer que tout est possible avec Internet, il y a l'histoire, il y a l'image, il y a tout. Il y a la question du jour. Nos impôts sont-ils bien utilisés? Évidemment, non, 80%, mais bon. L'image, on parle d'eux, c'est 3 lignes, c'est d'une très court. Et dans l'histoire, il y a un truc invraisemblable. On apprend qu'un Britannique, pour se débarrasser de sa femme, a inscrit son épouse sur la liste des terroristes interdits de séjour dans son pays. C'est incroyable. L'ère numérique, on peut inscrire des gens sur des fichiers pour qu'ils soient des terroristes. Alors, ce Britannique a beaucoup d'imagination. C'est vrai, comme beaucoup de Britanniques, d'ailleurs. Il a inventé une nouvelle forme, parce qu'on avait tout vu dans la littérature sur ce thème. Incroyable. Mais là, ça, non. Hein ? Un jour, un prêtre me disait... Guillaume, rassurez-vous, ne vous inquiétez pas, le diable n'invente pas tous les jours de nouvelles formes de mal. À la prochaine fois, je dirai le diable, non, mais les Anglais... Oui. Alors, pourquoi je parle des Anglais ? Excusez-moi, c'est un petit peu excentrique, hein, mais c'est pas seulement parce qu'on parle des Anglais, parce qu'on parle d'un continent qui est excentrique, où tout est possible. C'est-à-dire, quelqu'un vient vous faire une conférence, comme ça, on croit que ça va être sérieux, et il dit n'importe quoi, par exemple. Tout est possible sur le web. Comme chez les Britanniques, on peut avoir une perruque poudrée, avoir l'air le plus sérieux du monde et dire les choses les plus invraisemblables. Et comment identifier tout ça ? Les Anglais sont des gens extraordinaires parce qu'ils ont inventé non pas la technologie du web qui vient des États-Unis, plutôt des États-Unis, quoique les Américains, c'est un peu des Anglais continués. Mais j'espère qu'il n'y a pas d'Anglais, mais s'il y a des Anglais, je leur demande pardon. Mais je vais faire beaucoup de compliments sur les Anglais, sur les Britanniques. C'est qu'ils ont inventé l'esprit du web il y a 150 ans, à peu près. Est-ce que vous connaissez à Londres cet endroit qu'on appelle Marble Arch, Oxford Street, Hyde Park, etc.? Et là, il y a le Speaker's Corner. Est-ce que quelqu'un a entendu parler du Speaker's Corner ? Voilà des gens qui, depuis 150 ans, prennent la parole en public, avec des échanges qui peuvent être totalement anarchiques, sans autorisation de quiconque, sans qualification particulière à mettre en avant. Rien, tout cela. Tout le monde peut le faire. Parler du sujet de son choix, même s'il n'a aucune compétence dessus, dire ce qu'il veut dans une liberté d'expression totale, sur le sol anglais. Mais justement, ça n'est pas sur le sol anglais. Il monte sur un tabouret pour symboliquement se détacher du sol anglais pour pouvoir dire tout ce qu'il veut. Même une parole de lèse-majesté est permise, puisqu'ils ne sont pas sur le sol anglais. Ils sont en suspension. Un peu comme ce continent web. Et ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Et là, on se rend compte qu'il paraît à Marble Arch, les Speakers Corner, ils peuvent dire des choses très intéressantes. Il peut y avoir des débats, c'est interactif, on vient, on interrompt, etc. Tout le monde monte sur son tabouret, etc. Une espèce de grande anarchie qui règne. Et voilà l'esprit un petit peu du web. Ou de ce qui est devenu le web. Aujourd'hui, cet esprit des Speakers Corner. Et tout le monde peut le faire. Profondément, cette ère du numérique, c'est la liberté totale. C'est une vie facile et sans contrainte. C'est extraordinaire. C'est extraordinairement attirant. C'est beau. C'est le paradis. Imaginons un monde libre, sans contrainte, où on peut dire tout ce qu'on veut, il existe, et bien voilà le paradis. Voilà ce monde idéal qui arrive. Et de fait, il plaît. Il plaît et il attire. Alors si on sort un petit peu de l'excentricité britannique, on se rend compte que le web... comme à Marble Arch, du fait de cette totale liberté d'absence de contraintes, lui-même devient universellement et mondialement, culturellement, je dirais, excentrique, décalé. Ce qui a du succès, ce qui fait le buzz, c'est ce qui est excentrique, décalé, etc. À la télé, il y a des émissions sur DirecTV, je crois que ça s'appelle les perles du net. Donc les perles du net, on va vous montrer le meilleur du net de la semaine. Et vous vous rendez compte que le meilleur du net de la semaine... ça sera pas une conférence, chose comme ça. Ça sera des choses totalement excentriques, drôles, inattendues. Donc, on vit dans cette culture du décalé, du décalage, dans un continent sans terre, sans racines, sans matérialité, sans sol, en suspension. C'est ça, un peu hors du temps. C'est un peu hors du temps, tout ça. C'est sans frontières, c'est international. Et on se dit, mais comment l'appréhender? Quelles sont les frontières? Il n'y en a pas. Comment caractériser ce, matériellement cette Terre? Je sais pas. Donc on a un continent, vous l'avez appelé continent numérique, c'est, je pense que c'est bien. Continent ou on peut dire une ville-continent ou un village-continent, village mondial, on a dit. Parce qu'en même temps, c'est large. Et dans le même temps, on peut aller très facilement d'un bout à l'autre du village. Mais ce village est constellé d'une toile avec un nombre de rues, de places, d'avenues absolument incroyables. C'est l'agora moderne. Aujourd'hui, on parle presque plus de vox populi, on parle d'agora vox. On passe de la voix du peuple, des gens qui s'expriment. Donc, parfois, il arrive que des gens, qu'il n'y ait pas que des élites qui s'expriment. Déjà, avant, c'était déjà le cas. On parlait de vox populi. Aujourd'hui, c'est l'agora vox. C'est toute la foule qui s'exprime. C'est une sorte d'aréopage ultra-démocratique. Et pour tous. Ça paraît un petit peu effrayant, mais voilà que ce continent se présente à nous, et il a des places, des avenues, des ruelles, des lieux de culte, tous les cultes, des impasses, liberté religieuse totale, et des impasses, des lieux de perdition aussi, un peu de tout, des magasins, bien sûr, alors, il y en a beaucoup, des enseignes, la pub, des lieux de loisirs, et voilà tout un continent. J'aime bien cette expression de continent parce que ça nous fait fixer peut-être l'enjeu qui va être développé au cours du week-end, avec l'aspect missionnaire, et aussi avec la compréhension des aspects anthropologiques qui me paraissent essentiels, donc je ne vais pas rentrer dedans, puisque ça va être abordé par M. Méry, et la question du discernement sur l'usage, qui, j'imagine, doit aussi inclure une réflexion sur les aspects éthiques, moraux, d'Internet. Et honnêtement, je pense que ça n'est pas trop. On aurait pu se dire, les journées d'études, Internet, on va faire une conférence sur Internet, et puis on va inclure ça dans... Non, là, tout. Et je pense que c'est une bonne chose, parce qu'il y a un enjeu exceptionnel, qui est qu'une culture nouvelle, le pape l'a dit dans le message pour la journée des communications sociales, il a parlé de cette culture nouvelle, transformation culturelle, elle est à féconder, précisément, et fécondé avec le Christ, par le Christ. Comme la foi a toujours fécondé la culture, sans vouloir précisément toujours féconder la culture, mais elle l'a toujours fécondé. L'histoire de l'art et l'histoire de l'art sacré, sur certaines périodes, c'est quelque chose qui est très très proche. Et aujourd'hui, on vit quelque chose de totalement inverse, où l'art sacré n'a plus sa place, la place qu'il avait, bien évidemment, dans le domaine de l'art, est un petit peu à part. Donc il y a un travail énorme à faire pour féconder toute une culture et non pas la réprouver. Les missionnaires, ils allaient découvrir des peuples un peu très très différents. Ils apprenaient leur langue, ils voyaient quelles étaient leurs mœurs, leurs coutumes, leur manière de faire, et puis ils christianisaient, rectifiaient ce qui devait être rectifié, puis il christianisait ce qui pouvait être christianisé. Il ne modifiait pas la culture, rien, tout ça. Est-ce qu'on est amené à modifier profondément la culture de notre temps ou est-ce qu'on est amené à l'évangéliser? On est probablement d'abord amené à l'évangéliser. Et si on l'évangélise, bien évidemment, il y aura une espèce de choc, un effet de contre-culture dans la culture qui fera qu'elle va évoluer, cette culture, puisqu'elle va devenir chrétienne. Le pape, alors lui, il est allé au Bernardin dire que, en gros, c'est incroyable, il a raconté à tous ces intellectuels, artistes, etc., des milieux parisiens, mais pas seulement, que la culture, qu'il n'y avait de véritable culture humaine que chrétienne. Puis va loin, hein, lui, il dit, direct. Et les gens ont applaudi à tout rompre. Donc, ce mouvement, effectivement, entre la culture, l'évangélisation, il faut relire peut-être le discours au Bernardin, il s'est très bien expliqué comment ça s'est fait au Moyen-Âge, donc maintenant ça va se faire de manière très différente, puisque ce n'est plus l'Église qui a la place centrale dans la société. Au Moyen-Âge, l'obsession c'était le salut des âmes, donc tout était orienté vers le salut des âmes. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tout est orienté à la satisfaction des sens. C'est peut-être pas si loin, parce qu'on veut satisfaire, sous la satisfaction des sens, il y a une recherche d'illimité. Et Internet est profondément, c'est un autre mot-clé, je pense, une culture de l'illimité. Illimité, liberté. J'irais presque que ça nous arrange, tout ça. C'est pas une mauvaise nouvelle, au contraire, c'est une bonne nouvelle, puisque nous, on a une religion, une spiritualité qui est fondée sur la, profondément sur la liberté humaine, liberté de conscience, etc. Et puis, on peut proposer l'illimité en illimité, là. Alors, évidemment, il faut avoir, je pense qu'il n'est pas interdit d'être habile. On sait que l'homme est limité, que les ressources sont limitées, que les biens de cette terre sont limités, et que c'est justement parce que les choses sont limitées que les hommes se disputent et se battent entre eux, d'ailleurs, généralement. Bon, on connaît toutes ces limites. Mais les gens, ils veulent de l'illimité. Mais nous, on sait qu'il y a des limites. Mais on sait où est le vrai illimité, ce qui peut véritablement combler et remplir le cœur de l'homme. Cette espèce de compulsion qu'on voit partout, c'est une aspiration, une compulsion pour Dieu, que mon cœur n'aura de repos avant qu'il ne repose en toi. C'est voilà, ça. On voit les gens, ils sont là. Je fais ça, je veux tel bien de consommation, etc. On se dit, c'est horrible, c'est un peu horrible, c'est vrai. Avec les 4000 messages publicitaires, ils sont connecting people, complètement pris dans le truc. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent les limités. Et nous, on sait, mais oui, que les limités, c'est le ciel, c'est le bon Dieu, c'est la vie avec Jésus. Donc, c'est une chose qui nous arrange et qui est très bonne. Et peut-être qu'on peut aussi miser sur ce caractère illimité de la foi, pour la présenter et pour entrer en résonance avec cette culture de l'illimité qui aujourd'hui est consumériste. Alors ce consumérisme nous fait horreur, mais il faut transformer un certain nombre d'appétits vers le bien. Bon, ça c'est pas nouveau, hein. Je pense que les théologiens catholiques ont toujours dit que les appétits humains étaient bons, qu'il fallait les orienter vers le bien. Et que ce choix du bien était la liberté. Et cette liberté, bien évidemment, on a une liberté formidable. Rien que dans l'Église catholique, c'est une religion, elle a une liberté qui est exceptionnelle. Depuis le Concile Vatican II, mais avant aussi, je veux dire, c'est pas nouveau non plus, mais la liberté d'initiative apostolique des laïcs, c'est quelque chose d'extraordinaire. Allons-y. Liberté et responsabilité, bien sûr. Donc vous voyez, cette histoire de liberté, cette histoire d'illimité, en fait, elle est bonne pour nous, et on peut s'appuyer dessus pour que cette transformation culturelle qu'on observe et qui se passe sous nos yeux et sur laquelle il faut pas rêver, on n'a pas une prise exceptionnelle pour le moment, elle puisse devenir le support aussi d'une transformation spirituelle qui elle-même, à son tour, viendra rectifier la culture, non pas l'éradiquer, mais la rectifier pour la mener vers le bien, vers le bon, c'est-à-dire vers un bon usage, tout simplement. Donc on voit bien que ces réflexions, je pense qu'elles vont être tout au long du week-end abordées, il y a des ateliers, etc., mais voilà. Je ne sais pas si ça convient, moi je me contente d'essayer de dresser un cadre. Vous me dites, hein, si ça ne convient pas du tout, hop, je cesse ou je rectifie. Donc voilà cette liberté, cette illimité dans le cadre de l'évangélisation d'un nouveau continent. Et Patrice de Blainquette vous en parlera, il connaît le sujet, lui qui évangélise aussi par ce continent, via les blogs, etc., etc. Le message du pape pour les journées mondiales des communications sociales, on fait le parallèle, c'est intéressant de noter que il est entièrement consacré aussi, un peu comme vos journées d'études. Vous le saviez ou pas, qu'il allait sortir ce message, ou vous aviez des entrées? C'était la bonne surprise. La bonne surprise. Alors j'ai appris, oui, on est connecté. Ça fait bip ce matin. Vous avez un Carme Deschaux qui va prêcher les exercices de... Hein, François-Marie Lettel. Voilà, connecting people, ça permet de savoir voilà, à 7h du matin en se levant, que François-Marie Lettel, que je ne connais pas, mais qui, à mon avis, vous connaissez, va prêcher à la curie, au pape lui-même, des exercices de carême. Voilà. Donc ce message montre bien, en étant totalement consacré au web, que vous avez eu parfaitement raison, en fait, de faire ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que vous allez l'étudier. Moi, j'ai noté vérité, authenticité, d'une part, comme style chrétien. Les mots-clés que j'ai notés, le style chrétien, ça c'est excellent. Vérité, authenticité. Et ensuite, le contenu de l'évangélisation, annonce, contenu de la foi, explicite, et témoignage. Parce que l'époque qu'on vit valorise d'une manière exceptionnelle le témoignage personnel et l'expérience vécue. Mais cela ne signifie pas qu'il faille abandonner toute prétention à donner de l'information, du contenu et du fond. Parce que je suis convaincu que les gens attendent de savoir. Et il a fixé l'enjeu. Et là, on en revient à cette histoire de connecting people, de consommation, etc. Un enjeu exigeant. Moi, j'ai retenu cette phrase. Pareil. La vérité de l'évangile n'est pas quelque chose qui puisse être objet de consommation, d'une jouissance superficielle. Et voilà qu'il fixe un enjeu qui est énorme, puisque la vérité de l'évangile, ce qu'elle n'est pas, c'est un peu ce qu'est, de manière dominante, l'usage actuel du monde du continent numérique. Je dis pas que le continent numérique est ça. L'usage qui en est fait aujourd'hui de manière dominante et à l'inverse de ce que dit le pape, c'est-à-dire le fait qu'on n'est pas dans la consommation quand on parle de l'évangile, qu'on n'est pas dans une jouissance superficielle ou quelque chose qui nous tombe de manière immédiate et après on passe à autre chose. Donc il faut réfléchir aussi à ce décalage. Hein. Donc culture, on veut féconder une culture. En même temps, le pape a mal, il a parlé de contre-culture. Il faut bien réfléchir à ces choses-là, parce que si on entend par contre-culture le fait que nous, on vit à part, et on n'est pas dans le monde, vos Facebook, c'est pas chrétien, machin, c'est un, on vit pas avec les gens. Si on vit pas avec les gens, on n'évangélise pas son milieu. Mais réfléchir à ces questions-là, donc c'est plutôt des pistes hein, là que j'évoque, de réflexion sur ces aspects, de partager la vie des autres. C'est partager aussi le Facebook. Vivre avec les autres, c'est aussi ça. Hein. Dire, moi, j'ai pas de compte Facebook, c'est peut-être une erreur. Mais ma femme en a un, hein, mes filles en ont. Et c'est parfois amusant. Ça a aussi un intérêt. Mais attention, il ne faut pas non plus peut-être survaloriser les choses. J'ai un chiffre qui m'a été donné, alors par un spécialiste, mais c'est Internet, on a à peine besoin de citer ses sources. En gros, quand même, 80% des échanges humains, on va dire de la conversation, demeurent entre personnes qui se parlent, etc. Et 20% concernent les conversations MSN, les Skype, etc., Facebook, Twitter, tous ces réseaux sociaux. Donc 20%, c'est peu et c'est beaucoup. C'est peu parce que l'immense majorité reste un contact vrai, physique, entre les gens. Mais c'est beaucoup parce que c'est quelque chose qui imprègne l'esprit et les modes de vie d'une manière importante, peut-être plus qu'à 20% justement, vous voyez. Et on va parler des sauts technologiques qu'il y a eu, mais il y a aussi une chose importante à prendre en compte, c'est le saut générationnel. C'est-à-dire qu'on arrive à la génération qui n'aura pas vécu sans Facebook. Nous, on a vécu encore quasiment tous Facebook, c'est il y a 5-6 ans. C'est tout nouveau, hein, cette chose. Et là, on est en train de voir naître une génération pour qui Facebook s'est depuis tout petit imprégné, utilisé, donc qui n'a pas connu l'avant. Et je pense franchement, il y a un avant et il y a un après, comme on dit. Donc ce saut générationnel, il est à analyser, il est à réfléchir. Personne ne peut lire l'avenir, donc personne ne peut dire comment seront les jeunes dans 20 ans, quand ils auront justement 20 ans. Ceux qui naissent aujourd'hui, on ne sait pas. peut imaginer tout et son contraire. Mais c'est une chose à surveiller, probablement, ce saut générationnel. Alors, les sauts technologiques, comment... Je surveille l'heure, parce que je ne veux pas déborder. Est-ce qu'on peut découper les choses? J'ai demandé son avis à Guillaume Ancelin. Guillaume Ancelin, c'est un consultant en communication spécialisé web. Il a été chez Publicis, cette Publicis Interactive, à un haut niveau de responsabilité. C'est un vrai spécialiste expert. Là, il est à Rome. Vous voyez, je pense que s'il n'avait pas été à Rome, je vous aurais proposé plutôt de l'inviter, lui. Mais... Donc, à défaut de Guillaume Ancelin, vous avez un homonyme, Guillaume de Prémar, un peu moins calé, mais qui a appelé quand même Guillaume Ancelin, qui lui a demandé ce qu'il pensait de tout ça, et comment il voyait les différents sauts technologiques, et comment on peut découper sommairement et brièvement les choses. D'ailleurs, il a commenté lui-même pour Zénith, hein, vous l'avez vu peut-être, c'est un texte intéressant aussi, peut-être à voir, il y a un long commentaire, une longue interview de lui sur Zénith du 31 janvier, je crois, quelque chose comme ça. Donc, l'idée qu'il développe, c'est que il y a Web 1, Web 2.0, Web 3, etc. Globalement, on est passé du spectateur à l'acteur et au producteur. Dans les premières générations Internet, on regardait, il y avait de la communication institutionnelle, c'était les premiers sites, ça plaisait beaucoup. Ça rapportait énormément d'argent à ceux qui le faisaient, puisque l'accès à Internet était très cher pour les entreprises. Et ceux qui possédaient cette technologie, c'est un peu comme les premiers hommes préhistoriques, je pense, qui avaient trouvé le feu, quoi. C'était des vraies stars et ça se payait très cher. Donc on voit bien qu'on est passé d'un Internet qui coûtait cher au départ, c'était pas facile de... Ça a été assez vite facile d'y accéder, mais d'y être, ou d'en être, d'avoir son site Internet, c'est les entreprises, etc., qui ont investi de l'argent, et il y a eu toute cette folie, cette fameuse bulle Internet, à une époque où Internet n'était à la limite qu'un média traditionnel encore. C'est-à-dire ce qui existait avant sous forme de papier, on l'avait sur écran. Mais il n'y avait pas une différence énorme, il n'y avait pas encore de mutation véritable. C'est pour ça que c'était très informatif, très institutionnel. L'accessibilité en elle-même s'est développée assez vite, c'est arrivé dans les foyers, comme ça. Un peu comme quand on jette un caillou dans l'eau. Mais... Il reste que dans cette phase, on était encore assez spectateur. Et y être n'était pas démocratique, en fait. Puisqu'il y avait une sélection par l'argent, il fallait faire un gros chèque. Les consultants, c'est une époque où ils ont gagné très bien pour leur vie. Il y en a qui gagnent encore bien leur vie. Mais c'est fabuleux, quoi. Internet, ils arrivaient, faites-moi d'abord un chèque de 30 000 euros, puis on en parle. Et puis les gens faisaient chèque. Et ça a changé parce que petit à petit, il y a l'interactivité forcément qui est arrivée. Les personnes ont commencé à pouvoir... On est devenu acteurs, nous-mêmes. On a commencé à pouvoir commenter, il y a commencé à avoir les premiers blogs. Je ne sais pas vous, Patrice, en quelle année vous avez monté votre blog ? 2005. 2005, oui. Donc c'était assez rapidement, en fait. Donc... Finalement, il y a beaucoup de choses qui sont très récentes. On a l'impression que ça a toujours existé, mais vous l'avez rappelé, hein, vous avez dit les dates, hein, tout à l'heure. C'est très, très, ça a été rapide. En 15 ans, tout a changé. Donc là, les premiers blogs, etc., les journalistes, tout type de choses, des gens qui ont commencé à s'exprimer sur Internet, mais au départ, c'était encore un peu des personnes qui avaient autorité, comme on dit, qui le faisaient, etc. Et puis, il y a eu les premiers outils de communication interpersonnelle, MSN, etc. Les adolescents commençaient à aller sur MSN, s'échanger des messages. Et puis, MSN a commencé à ouvrir, on pouvait créer sa petite page perso. Une page perso. Et c'est là que ça a glissé pour commencer à aller vers la production d'informations, la phase 3. Et puis, il y a eu le saut technologique vers toute interactivité et vers les réseaux sociaux, bien évidemment. Et là, ce qui était au début une page perso, maintenant on peut faire X pages perso, tout est facile, tout est accessible, c'est, comme on disait tout à l'heure, c'est le paradis, c'est la liberté, just do it. Juste fais-le. Si je puis me permettre cette traduction. Et voilà que les gens, non seulement nous, on devient producteurs d'informations. Avant, c'était quand même réservé à un producteur d'informations. C'était quelque chose qui n'était pas accessible facilement de pouvoir produire de l'information. Même de pouvoir publier son avis sur une question. Il fallait qu'un journal vous passe, il fallait qu'un éditeur vous prenne. C'était un parcours du combattant. Et là, bam, vous êtes producteur, tout le monde, comme à Marble Arch, tout le monde. Speaker's Corner, tout le monde peut dire tout ce qu'il veut, sans autorité aucune. Et là, on arrive vraiment en plein dans ce qu'on connaît aujourd'hui, cette ultra-démocratie, libérale du monde numérique qui est là et qui rejoint ce que les gens ont envie de vivre, c'est-à-dire la liberté et les limites. Vous voyez, c'est normal d'avoir envie de liberté et de limites. C'est vraiment dans cette phase 3 que là, on rentre là-dessus. Vous allez parler des réseaux sociaux, vous allez étudier tout ça, hein, de la question de la construction de la personnalité. Bon, je vais pas rentrer là-dessus, peut-être que vous allez voir tout ça au cours du week-end. Mais le producteur d'information, Guillaume Ancelin même dit qu'il est, devient plus qu'un producteur, lui-même devient média. C'est-à-dire, en livrant tout ce qu'on livre de nous sur web, on devient nous-mêmes, on devient producteur de nous-mêmes, de notre propre média. Et on le voit sur Facebook, le support, le mur, c'est la personne en elle-même. C'est pas simplement qu'elle va dire « je vous propose ça », c'est « je vous propose moi » avec plein de choses écrites dessus. Ou des vidéos, ou des etc. Donc voilà, c'est saut et c'est transformation incroyable où la personne devient média. La personne devient média, donc elle devient aussi support publicitaire, elle-même. On en a partout, là, scotché, finalement, bientôt. Et tout ça, c'est instantané, c'est relié par communauté. Alors, il y a un autre terme qui est intéressant pour nous, c'est peut-être qui sera étudié à réfléchir, c'est le terme de communauté. Puisque les gens vivent en communauté sur le... Désolé, je dis les gens comme si j'étais pas dedans, c'est pas bon du tout, ça. Non. On vit en communauté sur le web. Participer à un blog, c'est une forme de communauté. On découvre des gens, etc. Et là, la communauté, c'est un point fort aussi. C'est un point fort pour nous. Extraordinaire. Tout est possible, tout est réalisable. C'est formidable. Donc, ayons une vision très positive des choses, très honnête. Si on travaille sur la liberté, sur l'illimité, sur la communauté, voilà trois piste. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Tout le travail commence. Mais il faut bien qu'on prenne des pistes, hein, d'une certaine manière. Parce que ni une, ni deux, ni trois personnes ne vont pouvoir explorer tout ça pour dire c'est ça qu'il faut faire. Et Internet est en plus un espace de créativité extraordinaire et de liberté. Donc chacun s'approprie les choses. Donc voilà ce continent sur lequel on vit. Avant de laisser la parole, de cesser ma présentation, j'ai une présentation qu'avait fait Guillaume Ancelin. Elle est longue, donc je voulais vous passer un PowerPoint, mais il aurait fallu 2 heures. Et je me suis dit, vous n'alliez pas m'accorder une heure de plus. Quelques exemples comme ça. Si on tape sur un moteur de recherche, par exemple Google, qu'est-ce que la foi ? Eh bien, il y a quand même 970 millions de personnes qui posent cette question. 29 millions de requêtes par minute dans le monde, c'est qu'est-ce que la foi ? C'est pas mal quand même, hein ? Ça intéresse. What's faith ? Voilà exactement la requête. Je ne sais pas si je prononce bien, mais sûrement pas d'ailleurs. Et quand on le tape, on a 337 millions de liens. Le premier, c'est l'album de Cure, avec cette chanson Face, ou l'album Face. Certains connaissent, j'imagine. Enfin, moi, ma génération, Cure, c'était quelque chose quand même. Maintenant, c'est Lady Gaga. Là. Le numéro 2, c'est un site musulman. En soi, c'est pas dire l'islam, c'est une des plus grandes religions du monde. Il y a le christianisme, il y a l'islam. Bon. En numéro 3, c'est des choses un peu syncrétiques, des témoignages personnels où on mélange un petit peu tout, pas bien identifié. Objet de foi non identifié, OVNI. Le quatrième, c'est quelque chose qui touche plutôt à astrologie, scientologie, choses là, etc., etc. Et il n'y a rien de catholique dans les 15 premiers résultats. Je vous dis, j'ai dit des choses optimistes avant, mais puis là, mais faut aussi savoir d'où on part. Donc on part un petit peu de loin. On part un petit peu de loin. Donc il y a un challenge, comme disent les consultants qui utilisent des mots anglais. Être visible. Et produire pour être visible, pour produire du contenu et énormément de contenu. Énormément de contenu. Et c'est pour ça que toutes les initiatives web, même si elles paraissent redondantes, ah, lui a fait site, mais il y a celui-là, il est proche. Pas de problème. Beaucoup de contenu. Liberté chérie. Que les gens aillent mettre du contenu sur le web en liberté. Liberté, on sait, nous, ce que c'est, on sait qu'il y a responsabilité. Donc, on sait que celui qui veut bien user de sa liberté, il va se former. Évidemment, si quelqu'un qui n'a pas une bonne doctrine, comme on dit, mais n'importe quoi sur le web, bon, ben voilà, il va mal user de sa liberté. Mais liberté. Et l'Église, ni la hiérarchie, ni personne ne pourra pas tout contrôler. Avant, il y avait l'imprimatur sur les bouquins. On allait voir l'évêque, je veux publier ça. Est-ce que vous pouvez mettre le tampon conforme? Et l'évêque mettait le tampon conforme ou disait non, modifiez ce passage. Et il y en a qui étaient sourcilleux. Hein. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, on vit dans un univers de liberté. Il n'y a plus l'index non plus. D'ailleurs, personne ne serait capable aujourd'hui d'imposer de telles exigences, hein, même si on le voulait. Donc, c'est pas une option d'aller sur Internet où les chiffres, on sait qu'il y a 6,7 milliards d'habitants et qu'il y en a à peu près 2 milliards qui ont une connexion. Hein. Mais si vous prenez les continents les plus développés, là on est à des taux de connexion qui sont beaucoup plus importants, c'est-à-dire que quasiment tout le monde est sur Internet. Peut-être moins les générations les plus âgées ou bien sûr les plus jeunes. Et les catholiques qui sont sur le web, eh ben, c'est 436 millions quand même de personnes qui surfent sur le web. Et la caractéristique un peu aujourd'hui de l'usage catholique du web, on pourrait dire que pour aller sur un site catholique, il faut déjà être un petit peu catholique. Et ça donne aussi quelques... dire voilà, savoir d'où on part un petit peu. Et après, oui, j'en ai parlé, on passe de spectateur, acteur, producteur. Je crois que c'est vraiment intéressant. Il met 1980, 1990, 2000. En 20 ans, Internet était un outil, c'est devenu un média. Et après, la personne qui utilise Internet est devenue le média. Wow. Donc, accélération extraordinaire. Et bien sûr, celle des réseaux sociaux qui est un enjeu exceptionnel. Après, être attentif aux signes des temps, c'est-à-dire savoir comment ça va évoluer, c'est... Il y a un lien entre l'évolution, la révolution culturelle et la technologie. Donc, faut faire de la veille technologique un peu pour savoir comment ça va évoluer. On pense globalement que, pour l'instant, il y a un petit tassement quand même au niveau technologique. On va pas pouvoir non plus forcément, on n'est pas sûr qu'on puisse inventer 40 millions de choses encore. En revanche, on va commencer à pouvoir améliorer l'usage de certaines choses, notamment la vidéo, qui est encore un peu lourde, hein, c'est pas évident encore. Il y a beaucoup de vidéos, mais parfois ça bloque, etc. Donc, mais très rapidement, la vidéo va devenir quelque chose de très léger, de très facile à diffuser, de beaucoup plus facile à utiliser. Donc, les spécialistes ou des spécialistes disent qu'on va aller vers le full vidéo, tout vidéo. Et là, aujourd'hui, on a un site d'information avec du texte, quelques photos et puis une vidéo qui s'affiche. Où, là, on va sur la vidéo pour en savoir plus. Il n'y aura plus quasiment que des vidéos sur la page d'accueil du Times ou du Figaro, voilà. Donc ça peut être une évolution technologique. Donc voilà la manière que j'ai trouvé, bon, de dresser un petit peu et d'introduire peut-être ce week-end. Et je pense qu'il y a vraiment les raisons d'avoir un regard très positif sur les choses et de vivre dans ce monde et dans cette culture, non pas comme une contrainte qui s'exerce sur nous. on va dire, on n'a pas le choix. Non, si on vit dans ce monde, c'est pas parce que contrainte qui s'exerce sur nous, c'est parce que c'est une vocation et c'est notre vocation. Et c'est la vocation de 90% ou 95% des chrétiens en ce monde. Voilà.
Merci beaucoup.